Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, mais aussi résilience, espoir, reconversion et surtout trichothérapie. Inscris-toi à la masterclass offerte pour découvrir les habitudes self-care que tu devrais mettre en place pour sortir du burn-out. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors, aujourd'hui, je vais lire Bad from the Bat qui dit « Merci ». Merci beaucoup pour le podcast. Dingue, je crois que je fais un burn-out. En tout cas, tu as décrit exactement ce que je ressens. Bravo pour ce travail, pour l'énergie et la clarté dans tes propos, c'est super intéressant et ça aide. Eh bien, merci beaucoup Jade pour ton retour, ça me fait vraiment plaisir de savoir que ce que je raconte est accessible et surtout pas barbant. Et si tu crois que tu fais un burn-out, ne reste pas sur ce doute. Consulte ton médecin traitant pour qu'il te dise si t'es dedans ou pas. Et même si tu es en burn-in, mets en place des choses pour éviter le burn-out. Pour cet épisode, j'ai l'honneur de vous présenter Anaïs de Utopia, un magnifique lieu pour les parents à venir. Julie de Corps et Confiance, notre sophrologue de Gang des Lilloises. Et puis Ariane qui travaille sur un accompagnement pour apprendre l'anglais et le maîtriser finger in the noise. Petite info avant de commencer l'épisode, le bootcamp Sortir du Burnout est ouvert aux inscriptions. Il est éligible au CPF et si tu n'es pas concerné par le compte personnel de formation, eh bien profite du prix promo avec des mensualités. J'ai vraiment fait en sorte qu'il soit le plus accessible possible car le but est de t'accompagner durant 4 mois à travers de la naturopathie, du développement personnel, de la psychologie positive, de la trichothérapie. On va s'adapter sur ton cycle menstruel pour inclure des routines self-care. On va revoir ton alimentation. Tu auras tout un programme sur 30 jours. Tu vas voir comment faire du batch cooking pour gagner du temps. On parlera d'ailleurs productivité, organisation. Il y a énormément de techniques de relaxation. On parlera même zéro déchet et l'impact sur le désencombrement mental. Et enfin, bien évidemment, on travaillera l'ikigai pour que tu mettes du sens dans ton quotidien. Réserve ta séance offerte pour qu'on puisse en parler, voir si je peux t'aider et surtout comment tu peux te faire financer cet accompagnement.
Moi, c'est Julie Defermé. Je suis sophrologue depuis quelques mois. J'ai terminé mon diplôme universitaire à Lille. En fait, j'aimerais que la sophro devienne un support, un outil, une aide pour pouvoir être au maximum de son potentiel, on va dire, pendant les différentes fluctuations et les différentes phases du cycle.
Du coup, l'exercice, il va dépendre de la fameuse saison dans laquelle on est.
Tout à fait.
Top ici.
Alors, moi, je suis Ariane Salvarani, je suis formatrice en anglais. Je travaille en centre de formation au Vereta, notamment pour des personnes qui sont en reconversion professionnelle, ou pour des gens en entreprise salariés qui voudraient juste un coaching sur des choses bien précises.
Anaïs, je suis en train de créer mon concept store, mon lieu de vie, mon tiers lieu qui s'appelle Utopia, qui est un lieu de vie destiné à la parentalité, donc dans lequel on va pouvoir assister à des conférences sur la parentalité, la périnatalité, l'enfance, l'éducation, etc., etc. Bref, toutes les questions qu'on se pose en tant que parents. Mais il y aura aussi une petite partie salon thé, histoire que ce soit quand même un peu sympa, avec des ateliers créatifs, soit pour adultes, soit pour enfants, soit en binôme. Puis il y aura aussi une partie dépôt-vente de vêtements enfants, parce que le développement durable, ça me tient un peu à cœur. Deux petites filles qui m'occupent bien.
J'ai pas parlé de mon fils.
Alors,
je l'aime d'amour, mais j'ai
pourtant.
Juste avant de lancer l'enregistrement, on était là en train de se dire « Il veut pas prendre les biberons, il veut pas prendre les petits. » Donc il a quel âge ton fils ?
Il a 6 mois, il s'appelle Jonah, il a 6 mois. Du coup, moi, je travaille 3 jours par semaine et 2 jours où je suis avec lui.
Quand tu fais un burn-out, il y a une grande majorité qui se reconvertit dans l'entrepreneuriat parce que se rendre compte que la vie de famille a été mise en pause pendant très longtemps et c'est pas du tout en adéquation avec leurs valeurs. Et elles se disent, non, cette fois-ci, je veux autant de vie pro que de vie perso.
J'ai été salariée en centre de formation à Cambrai. Et du coup, je faisais une heure, un quart de route. Et quand j'ai eu mon fils, je me suis dit stop, parce que je vais pas pouvoir l'élever. Et ça me... À chaque fois que j'y pensais, je me sentais mal, quoi. Du coup, j'ai arrêté cette partie-là, cette grosse partie-là qui présentait. Et du coup, je fais plus de... j'ai changé un peu mon...
Oui,
pour avoir mon organisation, pour être avec lui, quoi.
C'est super important, parce que le fait de... que tu saches que j'ai envie de lui consacrer du temps fait partie de ce travail d'introspection que j'arrête pas de rattacher. Si tu ne savais pas que tu voulais lui consacrer du temps, t'aurais gardé ton centre de formation à Cambrai. Et le fait d'être autant à l'extérieur et pas assez avec lui, conflit de valeurs,
c'était pas possible, hein.
Et bim burnout.
Mais ça, moi, c'était l'exactitude de ce que vous êtes en train de raconter, quoi. Le mode cliché, presque, quoi, c'est ça. Après, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais c'est que j'étais à fond boulot. Avant d'avoir des enfants, j'imaginais rien. J'étais pas du genre à me projeter. Quand j'ai eu des enfants, pour vous dire, le jour où je suis partie en congé, comment il s'appelle ce congé-là,
maternité.
Pour aller coucher, non, avant d'accoucher, c'est
ouais,
ça
maternité.
Quand je suis partie en congé maternité, j'ai pleuré parce que on m'obligeait à partir en congé maternité. J'avais déjà pris les 3 semaines maximum que tu peux décaler, etc. Et je pleurais dans ma voiture parce qu'on me coupait de mon travail, etc., etc. Toi, t'as mis moins de 6 mois, moi j'ai mis quasiment 6 ans à réagir. Et à me dire, non mais en fait c'est pas ça la vie que je veux. J'ai continué avec mes enfants à bosser du 50 heures semaine, etc., etc. Et j'étais contente, hein, ça me plaisait, j'étais à fond. Et puis, le confinement est arrivé, je me suis retrouvée à la maison avec les enfants. Au départ, je me suis dit, mais comment je vais faire? Non, moi, faire maîtresse pour 2 enfants, plus gérer le trampoline dans le canapé aux heures de récré, etc., je vais devenir dingue. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que c'était en train de me remettre en phase avec mon besoin profond. Et j'ai lâché tout ce qu'il y avait derrière et je suis repartie sur une nouvelle base. Mais au final, merci le confinement. Alors, soyons clairs, merci le confinement numéro 1.
Non, mais c'est vrai, hein, depuis le confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont mises en instruction en famille, alors qu'avant, ce n'était pas du tout concevable pour elles. Mais être obligée à faire école à la maison, retrouver la fille de famille, se sont dit non, mais en fait, c'est trop bien. En fait, je veux trop faire ça. Comme quoi, dans tout mal, entre guillemets, tu peux en tirer un bien. Le tout, c'est de, voilà, c'est de se concentrer sur le positif et essayer de retirer le plus de positif d'un événement négatif. Comme d'ailleurs le burn-out.
C'était vraiment le déclic, clairement, de dire non, mais c'est pas ça que je veux. Et déconstruire en fait ce schéma que tu avais, en fait, finalement.
Parce que quelque part, on est quand même conditionné, comme je dis, à faire des études, avoir son diplôme, chercher un CDI, acheter une maison, une voiture, nanana. Et surtout, bosser très très longtemps et tout le temps. Et si tu le fais pas, il y a un truc qui ne va pas. Alors, bien évidemment, la personne, la maman qui accouche et qui a hâte que les 2 mois se terminent pour reprendre le travail, elle est pas anormale. Hein. Le tout, c'est d'être aligné avec ce qu'on a envie de faire. C'est
ça a été mon envie pendant 6 ans.
Voilà. Et ensuite, t'as le droit d'évoluer. T'es pas obligé d'être la même personne de A à Z pendant 30 piges, c'est pas normal. Forcément, tu vas évoluer, forcément, tu seras intéressé par d'autres choses. Donc, au moment où tu es certaine que ça te va de bosser plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, c'est très bien. Et le jour où tu sens que ça ne va plus, que tu as plutôt envie de cette promiscuité avec tes gamins, il faut pas traîner pour le faire. Parce que tu sois dans l'un ou dans l'autre. Que tu restes à la maison alors que tu as envie de travailler, ce n'est pas bon. Que tu travailles alors que tu as envie de rester à la maison, ce n'est pas bon. Encore une fois, alignement. Mais pour savoir ce que tu veux, il faut ce travail où tu te poses et où tu cherches un peu en toi ce que tu as envie, ce qui te fait kiffer, vibrer à ce moment-là. Quoi. Le truc qui te met à l'aise, le truc où tu es bien dans ta peau et le soir tu dis « Ah, c'est trop bien ma journée, c'était vraiment ça que je voulais faire. »
Je savais pertinemment que me lever à 5 du tam, prendre le train pendant 1h15, d'être là-bas 8h, de faire 8h de cours par jour, de rentrer à 20h, à 19h30, 20h, et de me dire d'allaiter, parce que ça me tenait à cœur, d'élever mon enfant, parce que, oui, voilà, je pouvais pas. C'était juste inconcevable pour moi. Ouais. Et du coup, je me suis dit, non, ça, il faut arrêter, même si c'est quelque chose qui fonctionnait très bien. Mon équipe, voilà, du centre de formation, c'était, enfin, voilà, je m'y retrouvais vraiment, et j'adorais enseigner à ces jeunes, mais juste, en fait, non, quoi. C'était quelque chose qu'il fallait que j'élimine.
Mais c'est génial que tu t'es sentie.
Ouais. Sauf que beaucoup, malheureusement, sont tellement la tête dans le guidon qu'il n'y a même pas 2 secondes dans la journée pour se poser la question « Est-ce que j'ai envie de reprendre le taf ou pas ?»
Disponible de se poser la question, en fait.
C'est indispensable. Tu peux pas. En fait, tu bases ta vie sur quoi si ce n'est pas sur tes besoins et tes priorités à toi? Si tu les bases... Et c'est ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, sur ce que dit la société, ce que dit ta famille, ce que dit celui-ci, nanana. Forcément, tu risques d'être décalé avec toi-même. Et si tu es décalé avec toi-même, ça ne peut pas...
Il y a forcément un moment où il faut que tu te poses et que tu te dises, bon, ben, maintenant, qu'est-ce que je fais? De quoi j'ai envie? Vers quoi j'aspire? Moi, c'est ce qui s'est... Ben, c'est vrai, j'ai fait des études qui ne me plaisaient pas. Du coup, j'ai pris la décision de partir, même si... J'aimais beaucoup les amis que j'avais, enfin, l'entourage que j'avais là-bas et l'ambiance aussi, parce que j'étais en Belgique. Les événements de la vie et mon corps aussi mon esprit et mon corps qui sont un peu totalement dissociés et je me suis dit, bah, là il faut que je fasse quelque chose pour me reconnecter et trouver quelque chose qui me correspond et ça a été l'aide à la personne.
Et pour du coup, pour rebondir, comment est-ce que ça s'est manifesté, toi?
Ça a été un peu compliqué. En gros, j'ai enchaîné des problèmes personnels, familiaux, un décès, une séparation et un avortement qui n'était pas voulu. Je me suis totalement... Tous les ressentis que j'avais dans mon corps, c'était négatif. Ouais. Parce que cet avortement, je ne le voulais pas, j'aurais préféré garder bébé, etc. Mm-hmm. Tout ce qui pouvait être ressenti, même si parfois c'était positif, j'étais en mode non, je veux rien savoir, tranquille, ne me parle pas. Et forcément, au boulot, ça ne se passait pas bien aussi, parce que je n'étais pas du tout en lien avec ce que je faisais, et puis ce n'était pas un boulot qui reflétait... ce que j'avais envie de faire.
Bah, c'est le fameux bore-out, quoi.
Ouais.
C'est, je pense, un taf alimentaire, parce qu'il fallait le faire, parce qu'il faut payer ses charges, il faut payer son loyer, hein. En tout, EDF est payant, donc il faut payer tout ça, donc il faut aller quand même chercher des sous. Mais c'était pas du tout ce que tu voulais faire, ça te parlait pas au quotidien. Et en plus, si tu associes ça à des événements négatifs...
Bah, forcément. Et il y a le confinement, donc... J'ai eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir faire mon mémoire. Tout ça.
Super, comme quoi, hein, ce confinement, moi aussi, il m'a beaucoup aidé.
Mine de rien. Hein.
Moi, la grossesse, j'étais... Enfin, voilà, justement, je n'allais plus à Cambrai et du coup, bah, j'ai pu vivre ce truc...
Slow life.
Exactement.
J'étais reconnectée à l'art de la lenteur, de se poser, de profiter du soleil. Et ça, pas juste le dimanche. Mais plutôt... Tous les jours, je me pose et c'est super important de se donner du temps. Quoi qu'il arrive, qu'importe comment se passe ta journée, avant de dormir, il faut se donner du temps. Elle me regarde, je te regarde.
Ah non, mais je suis loin du Golfe.
Je le vois. Mais ne serait-ce qu'un quart d'heure, tu vois, avant de fermer les yeux, un quart d'heure, personne ne me parle, vous ne me demandez rien du tout et je me vide l'esprit. Je me vide l'esprit avec un truc que j'aime bien. T'es pas obligé de faire la méditation si t'as pas envie de faire de la méditation, tu vois. Tu peux prendre un livre, écouter un podcast, regarder un épisode Netflix, lire 3 pages.
Oui,
tu vois.
Ça va, ok.
Mais il faut un temps déconnexion totale. Ne serait-ce que 15 minutes. 15 minutes. Après, tu vas tellement y prendre goût, tu vas dire, vas-y, hop, je vais me permettre 25 minutes ce soir. Au bout de 2 semaines, t'arrives, oh, ça fait 35 minutes que je suis tout seul, mais c'est magnifique. Et c'est incroyable comment le temps, il va se libérer. Parce qu'on est là, j'ai pas le temps. On prend pas le temps, c'est pas vrai. Et faut pas se dire, le fameux miracle morning, là, je vais me lever 2 heures avant. Non. 5 minutes, c'est très très bien. Si t'arrives à avoir 5 minutes pour toi par jour, ensuite 10 minutes, ensuite 12 minutes, ensuite 20 minutes, tu vois, petit à petit... Et oui, un jour, tu vas te retrouver à avoir 2 heures rien que pour toi. Et en plus, si tu n'auras pas ces 2 heures, tu vas être mal dans ta peau. Donc, tu vas les chercher. De force, tu vas les chercher et tu vas les trouver.
C'est une habitude à prendre.
Ah oui, oui, oui. Et c'est une habitude qu'il faut installer insidieusement, en fait. Parce que sinon, si ton cerveau, il se rend compte que tu veux mettre en place quelque chose de complètement radical et trop dur et trop long, et dire stop, 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 t'as plein de choses à faire, t'as vraiment pas le temps de donner 2 heures par jour, t'es folle, toi. Donc, faut l'introduire petit à petit pour qu'il ne se rende pas compte qu'il y a un changement qui se met en route. Si je peux vous donner un tip, c'est celui-là. C'est pas surtout pour toi.
Non, mais moi, il faut des confinements pour eux.
Pour être un Ce couple de la réalité.
Ça a donné quand même vie à un projet de fou.
C'est enfin, clair.
Je sais pas si tu te rends compte quand même de ton projet. Non, ouais. Il est pas simple. Hein,
ah ouais.
Il est à mon image. C'est-à-dire, je peux pas faire une chose à la fois.
Moi, si t'arrives à gérer, c'est nickel. C'est vrai. Il y en a, elles doivent prioriser et faire petit à petit, ouais, étape par étape. Moi, clairement, je suis comme ça, ouais. Parce que sinon, si je me disperse, je vais me disperser, mais je ne vais pas du tout savoir gérer. Je vais juste me disperser, c'est tout. Mais toi, si t'arrives à être dispersée et efficace, c'est très bien.
Mais en fait, sinon, je m'ennuie.
Non, ouais, c'est pas
c'est ça, en fait.
Comme
tu
je
sens
dis,
que ça, c'est le...
Ou bien, peut-être, sinon, j'ai le temps de penser.
Si tu orientes tes pensées, ça peut être cool d'avoir du temps de penser.
Mais en fait, il y a Julie qui est sophrologue. Ouais. Ouais. Elle esquive.
Mais je disais à Sarah, tu sais, moi je pense que mon témoignage peut être intéressant parce que je pense être dans le déni. Et clairement, je fuis le temps de pause, je fuis le moment de réflexion, je fuis. Donc je sais que j'ai fait un burn-out, je sais, on l'a dit, je sais. Mais je ne crois pas.
T'exagères, tu mens. Donc bon, on te le souhaite. Hein, pour l'instant, t'es à fond dans ton projet. Ça te permet d'occulter tout le truc. T'as 2 possibilités. Soit c'est tellement jouissif et épanouissant pour toi que finalement tu vas te reconstruire via ton projet. Soit quand ton projet va prendre vie, il va y avoir un vide en disant bah merde, ça m'a occupé à fond. Là, j'ai plus rien à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais avoir un autre projet. Et attention, tu pourras enchaîner des projets ahurissants comme ça juste pour pas réfléchir. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est pas possible. Il va dire stop, stop, stop.
C'est exactement la voie que je prenais. Du jour au lendemain, j'ai dit, je n'en peux plus de bosser dans ce job, je me casse, c'est fini. Je monte ma boîte, et heureusement pour moi, il y a eu un confinement, parce que ça m'a permis quand même de me dire, ok, je vais monter ma boîte, mais j'ai quand même d'autres priorités à côté, oui. etc. Mmh. Sans le confinement, en mars l'année dernière, j'avais déposé un dossier pour un local.
Tout en bossant à côté, avec les gamins.
C'est pour ça... c'est peut-être de la fuite, c'est peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est sûr, je ne prends pas le temps de réfléchir. Mais heureusement pour moi, ça m'a plus ou moins été imposé et ça m'a permis de mettre en phase mes vraies envies avec ce que je fais concrètement. Quoi. J'ai découvert récemment le principe Ikigai.
Oui,
vous connaissez ?
Tout à fait.
Mais je me suis dit...
C'est quoi ?
L'Ikigai, en fait, c'est le point commun entre ce que tu sais faire... ce dont la société a besoin, ce pourquoi tu peux être payé et ce que tu kiffes faire. Donc, voilà. Tu as tes passions, tu as tes talents, tes compétences, tu as le marché dans le monde et tu as aussi une partie altruiste parce que les gens en ont besoin. Et là, tu vas trouver un petit point commun et généralement, si tu bosses là, si tu fais cette activité-là, alors, on l'utilise beaucoup pour la voie professionnelle, mais tu peux aussi l'utiliser pour la vie de tous les jours, donc pour mettre du sens dans ta vie tout simplement. Et ça, c'est très important pour les burn-out parce que moi, je l'utilise clairement dans mon accompagnement, c'est mettre du sens dans notre vie. Elle peut être dans la vie perso, mais tu peux aussi l'utiliser pour trouver une voie professionnelle. Et si, dans ton quotidien, tu fais ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire, ce qui aide l'autre et ce pourquoi tu peux être payé... C'est l'éclat, quoi.
C'est le bonheur.
Et donc, toi, quelque part, Utopia vient d'ici.
C'est ça. Et en fait, alors, moi, j'ai pas découvert Ikigai et puis posé en me disant dans quelle direction je vais aller. C'est le contraire. J'ai dit, tiens, je vais faire Utopia. Et après, j'ai dit, c'est mon Ikigai.
Bah voilà.
Et en fait, c'est aussi comme ça que je me suis dit, mais avant, j'étais pas à mon ikigai.
Ouais, ouais.
Et ça m'a permis de réaliser, voilà, en fait, je vais dans la bonne voie, quoi.
Et d'ailleurs, les Japonais, parce que ça vient d'une île, Okinawa, au Japon, et ces gens-là disent que lorsque tu trouves ton ikigai trop tôt, c'est pas le bon. Ah, l'ikigai vient forcément avec le temps, parce qu'il vient avec la connaissance de soi, et surtout parce qu'on évolue, voilà. Et donc, si vous deviez donner une définition, à quoi ressemble un... Qu'est-ce que c'est un burn-out pour vous ?
Moi, je pense que c'est vraiment pousser dans toutes les phases de sa vie, et pour moi, il y a cette phase d'effondrement, réellement, de se dire... Non, à un moment, je me lève plus, je ne peux plus. Ensuite, pour moi, il vient une phase de reconstruction après ça, je pense vraiment.
Bah, de toute façon.
Je pense qu'on ne peut pas rester 3 mois à la maison puis après se dire j'y retourne. Personnellement, je pense que ça va plus loin que ça et qu'il y a une phase d'introspection, de reconstruction.
Parce que de toute façon, si tu es au fin fond du trou et que tu repars bosser comme ça, peut-être que tu peux creuser encore pour...
ça peut très bien aller un peu mieux, mais derrière, ça va potentiellement à un moment repartir.
Ouais, il y a des rechutes, quoi. Il y aura des rechutes. Et toi, t'as l'impression qu'il s'est manifesté physiquement ?
Alors, moi, ma définition, ce serait que ton corps et ton esprit t'envoient des signaux que t'ignores. Tu décides de nager, enfin tu décides pas, c'est inconscient, tu nages à contre-courant en fait. Il y a des signaux et puis tu continues ton chemin et à un moment, le corps et l'esprit se mettent d'accord pour t'envoyer un signal mais tellement fort que tu vas pas pouvoir continuer ton chemin, tu vas être obligé de t'arrêter. Et moi, est-ce que vraiment je l'ai senti ? Comme je vous dis, moi je te crois pas si tu me dis que j'ai fait un burn-out, mais le jour où j'ai dit j'en ai marre, j'arrête, j'en peux plus, il faut que je change, je sors de là, en fait, c'était un jeudi, normalement je devais aller bosser le vendredi, j'avais rendez-vous chez le médecin ce jeudi-là pour un truc qui avait rien à voir, j'arrive, il me dit bonjour Anaïs, ça va ? Et là je fonds en larmes. Le cliché.
Un craquage émotionnel, c'est
voilà.
Ça
voilà. Et donc il me dit, oh, je pense que t'as besoin de repos, etc. Donc tu fais un burn-out, j'ai l'impression, après avoir discuté un petit moment.
Hein. Ouais.
Non.
Quoi ? Moi qui suis si forte.
Mais oui.
Ok.
Moi, never ever.
Mais de quoi tu parles ? Comment oses-tu, quoi ?
Ok, tu fais pas un burn-out, ok ? Mais repose-toi.
Et heureusement que le confinement est venu, quoi.
Voilà, c'est ça.
Sinon, tu serais reparti de plus belle. Et là, exactement. Je pense que ton corps, il t'aurait dit.
C'est ça.
Avec un bel. Ce que j'appelle un bel effondrement, quoi. Tu serais peut-être arrivé à l'hôpital.
En fait, dans ma tête, c'était clair, c'était. Je tire un trait sur mon passé professionnel subitement, c'est-à-dire ras-le-bol, j'arrête, c'est fini, je passe à autre chose. Mais c'était pour me lancer corps et âme dans un autre projet à X heures par semaine, ouais. Etc. Et comme tu le dis, très certainement j'aurais explosé en plein vol parce que j'avais pas pris le temps de la réflexion.
Non, le burn-out n'est pas toujours lié à une surcharge de travail. Si la surcharge de travail, elle est en phase avec toi-même, franchement, c'est que tu, comme je dis, tu t'en nourris. Mais, pense à ce que je te dis, cale des petites 100 minutes par-ci, par-là, ensuite 10 minutes par-ci, par-là, parce que bah, t'es pas quand même à l'abri d'un effondrement, même si tu fais quelque chose que tu kiffes. Vu que le corps et l'esprit, quoi que tu veuilles, ont besoin d'un temps de...
Voilà.
C'est, il en faut, en fait, il faut. Alors, tu peux être hyperactif, tu peux être au potentiel, tout ce que tu veux... Il faut du temps pour que tu vides ton esprit. Donc, si t'es pas pilate, mais va courir. Si tu dois taper dans un sac de sable, bah tape dans un sac de sable. Mais c'est toi qui dois le trouver. C'est toi qui dois trouver ce temps qui te permet de te défouler, de te vider. Combien de personnes font de la boxe ? Jamais je vais faire de la boxe, mais ça m'intéresse. Ah, tu vois ? Mais il y en a, si elle a pas ce temps par jour où elle tape dans un truc, ça va pas. Donc c'est à toi de le trouver, ce truc-là.
T'as raison.
Grâce au travail d'entre
eux. Mais c'est vrai que la tendance du moment, c'est justement sur des pratiques douces, tu vois que
ouais,
ça.
Mais on s'en tape ça, de la tendance.
Et moi, je sens une pression.
Ouais.
De pas, parce que tu ne le fais pas.
Tu fais pas le miracle morning. Tu fais pas la position du chien assis
beaucoup qui font aussi du crossfit ou des choses du style, tu vois, c'est aussi
oui, c'est aussi tendance
Bah pour autant ça ressemble pas du tout à la méditation, mais les gens s'y retrouvent, quoi.
Mais c'est soit tout l'un.
C'est ok aussi de se poser et de te dire moi je suis pas totalement l'un, je suis pas totalement l'autre, je vais en faire un petit peu.
Ce sera assez pour moi, totalement moi, quoi, c'est tout. Et chaque génération a cette tendance-là et cette pression. Et il faut s'en détacher. Fais ce qui te parle. Mmh. Fais ce qui te plaît à toi. On s'en tape de ce que dit ton voisin. Mmh. Est-ce que ton voisin, il vit à ta place? Non. Donc, on s'en fout. Il te parle, tu te dis ok, ok, d'accord. Ok, tu fais du pilates, très très bien. Toi, tu kiffes. Ah, mais c'est magnifique, ouais, ah, c'est chouette, soit. Mais c'est tout. En rentrant chez toi, tu fais ce qui te plaît, toi. Et oui, si une offre, elle te parle pas, ça veut pas dire que t'es bizarre. Si elle te parle pas, va chercher celle qui te parle. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui, toi par exemple, Ariane, qu'est-ce qui te fait dire que t'es pas du tout en burning, tu vois, t'es bien. T'es bien dans, sur le chemin sur lequel tu es censé être.
Bah, je pense que j'arrive à être en phase ou en équilibre, j'ai trouvé un équilibre entre ma vie pro, ma vie personnelle. Bah, j'essaie de jamais avoir des pics émotionnels comme ça. Ça, c'est depuis quelques années, c'est mon, c'est un peu mon leitmotiv, quoi. De me dire non, je vais pas là-dedans et j'essaye toujours de rester. C'est pas facile, hein, bien sûr, mais après, voilà, j'essaye de me. Ouais, bien sûr, c'est ça. Et puis j'essaie d'écarter tout ce qui peut être, voilà, tout ce qui peut être nuisible en fait. Vraiment, je veux pas écouter, je veux pas y aller, je veux pas aller vers ça parce que ça va me faire du mal. Et ça, c'est pas facile, bien sûr. Il y a des fois, il y a des débordements.
Après, ça reste normal dans la vie d'une femme d'avoir des fluctuations aussi émotionnelles. Mmh. C'est-à-dire que quand tu vas, je sais pas si vous avez une contraception ou pas, mais quand tu vas être dans ta phase d'ovulation, tu vas être ultra énergique, etc. Il faut pas te faire chier parce que t'es un bulldozer. Mmh. Et quand tu vas juste avant d'avoir tes règles en syndrome prémenstruel, tu vas avoir envie de mourir parce que.
Les hormones, voilà, hein, qui
sont. Et c'est normal, il faut aussi accueillir ça. Ouais. C'est sûr que si t'es tout le temps trop up down, c'est difficile à gérer. Ouais. Mais c'est normal, c'est ok d'avoir des émotions tout au long de son cycle.
Et c'est pour ça que c'est très important de se connaître et de se connaître son cycle et de savoir dans quelle saison on est parce que. Tu comprends beaucoup mieux pourquoi là t'es plutôt dépressive et pourquoi là tu débordes d'énergie.
C'est ça. Pourquoi là t'adores tes enfants
et t'as envie de les tuer. Non mais c'est vrai, le fait de se dire c'est pas totalement moi, c'est mes hormones qui me font penser comme ça.
Et moi j'ai une anecdote quand j'étais enceinte. Mais j'ai un jour mon compagnon qui me dit oui, bah non, mais c'est comme ça. Et je parle de. Ça m'a affectée profondément dans mon moi. Mais pourquoi tu me dis ça? Et comme un enfant, je me suis retrouvée vraiment. Mais pourquoi tu me dis ça? Et puis. Et c'est vrai que là, pour le coup, les hormones pendant la grossesse, bon voilà, c'est autre chose, mais du coup, c'était.
Mais pour une femme, les hormones, c'est toute la vie. C'est clair que c'est exacerbé pendant la grossesse, mais en vérité, tu subis. D'ailleurs, c'est ça le principe.
C'est pas de
se connaître et connaître son cycle menstruel et baser sa vie dessus permet de, comme dirait l'autre, surfer sur la vague et non te la prendre comme et subir tes hormones. Mais nous, la femme, faut comprendre que, on a un cycle hormonal qui est particulier, c'est pas celui de l'homme. Il faut se connaître pour savoir que de temps en temps, je viens pas me faire chier, quoi. Et c'est la vie, c'est comme ça, j'y peux rien. Je suis une femme, écoute.
C'est aussi là où c'est important que ce soit un travail de couple si t'es en couple, parce que l'autre aussi peut comprendre parfois comment tu réagis, pourquoi tu réagis comme ça.
Et au travail. Pareil, au travail, c'est kiff-kiff, surtout quand tu bosses dans une équipe. Tu peux pas être opérationnel, topissime le mois, c'est impossible. Et des fois, quand t'es en phase down et que ton chef, c'est à ce moment-là qu'il vient avec une pile de dossiers, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, t'as juste envie de chialer. Et si tu sais pas pourquoi, tu vas juste te dénigrer en disant je suis trop nulle, je suis trop naze, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Et ça, plus ça, plus ça, découle un burn-out tout simplement. Hein. C'est vraiment pas pour faire des raccourcis, mais c'est très très important de connaître son cycle menstruel et de comprendre que tu peux pas être opérationnel et que par moment t'es pas opérationnel, pas parce que tu es naze, mais parce que c'est tout. T'as des hormones qui font que c'est pas le moment. Mm-mm. Et pour toi, c'est utopia ton chemin
carrément.
Ton bon chemin.
En fait, c'est utopia mis en phase avec ma vie perso. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je sens que c'est la bonne voie et que je vais bien et que je suis contente parce qu'en fait, je kiffe. Je kiffe, j'ai le temps d'aller m'occuper de mes enfants, j'ai le temps... Après, c'est pas ouvert l'utopia, hein.
c'est le plus compliqué quand même.
Ça reste une phase de projet. Enfin, je suis en phase de montage de projet, de création, j'ai le local, ok. Franchement, je bosse beaucoup. Mais ça c'est pas encore ouvert. Mais je kiffe en fait.
Je kiffe parce que je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie de faire. Je sens que ce que je vais faire, ça va apporter de l'aide aux parents, j'allais dire aux futurs parents, mais aux futurs parents et aux parents. Mais donc voilà, je m'éclate. Et puis en plus, c'est hyper varié, il y a plein de trucs à faire, donc moi ça me correspond bien. Et j'ai aussi ce que je voulais avec ma famille en fait. Donc c'est j'ai les deux, c'est paradis. Ça,
encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. Et toi, Julie?
Moi, depuis quelques années, je me suis rendu compte que ce qui me motivait vraiment, c'était d'aider l'autre et que ça ait du sens. Et là, je suis totalement en phase. Même si je suis encore dans le début, voilà, faire sa com, etc. Je sais que quand je suis en séance avec quelqu'un et que je vois à la fin de la séance que ça a changé tel ou tel truc, même si parfois c'est juste minime, gratitude 10 000 quoi.
Ah non, mais tout à fait. Et encore une fois, pensez Kaizen, même si c'est minime, minime aujourd'hui, plus minime demain, plus minime après-demain, voilà. Ça fera beaucoup dans 3-6 mois quoi. Encore une fois, les choses qui se font en un clin d'œil n'existent pas.
Hein. Bah oui, puis c'est toute l'histoire de la sophro, c'est la répétition, c'est prendre son temps. Prendre le temps de t'écouter, que ce soit entre les séances ou pendant la séance, c'est il faut prendre son temps en fait pour avoir des résultats durables.
Ouais, tout à fait. Et on devait parler, j'ai oublié, tu sais, comme quoi pour te reconstruire après un burn-out, une des choses sur laquelle tu devrais mettre en place, c'est des objectifs, défi à relever.
La formation en elle-même. Je pense qu'en France, on a la chance de pouvoir se former assez facilement, soit par le CPF.
Ouais, c'est vrai. Non, mais ça, c'est miraculeux.
Soit par un congé de formation qu'on peut avoir par rapport à l'entreprise. On a cette chance-là de cotiser et en fait, je pense que les gens n'y vont pas parce qu'ils connaissent pas.
Ce qui est gratuit,
ouais, c'est ça. C'est juste un droit, quoi. Mm-hmm. C'est un droit. L'employeur, il peut refuser ou il peut repousser une fois, mais il peut pas repousser 10 fois, quoi. Il a pas le droit de faire ça. On cotise à l'UCA et du coup, on a ces heures qui nous sont
dues.
Exactement. Et je pense que se focaliser sur un objectif qui nous sert à soi, eh bien, ça fait partie de cette reconstruction et de ce retour à l'estime de soi, en fait. Vraiment, profondément, de se dire, là, je me concentre sur moi dans la formation, qu'elle soit en langue ou qu'elle soit, voilà, en fleuriste, peu à peu. Mais se dire, ça, c'est pour moi, c'est à moi. Et en fait, aujourd'hui, surtout, c'est facile en France de se former. C'est facile.
Mais tu sais que beaucoup ne connaissent pas du tout le CPF.
Non.
Moi, quand j'en parle, quand on m'appelle et je lui dis « Est-ce que t'as du CPF ?» Elle me dit « C'est quoi ?» Mais si t'as travaillé, pense à ton CPF.
Oui, mais c'est parce qu'en fait, on ne le dit pas.
Ouais.
Et puis parce que ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas te le payer. Voilà, n'existe pas en fait. Clairement, c'est ça.
Et pourtant, ils ont vachement simplifié l'accès. C'est hyper simple l'accès. Tu télécharges l'appli, tu vois tout de suite tes droits.
Est-ce que vous avez des conseils pour une personne donc qui nous écoute et qui est mal, qui est au bout de sa vie, qui peut-être est dans le déni ou qui sait qu'il ne va pas, mais voilà, le premier pas, il est toujours difficile, hein, de se dire, vas-y, maintenant, il faut que je me fasse aider ou maintenant, il faut que je mette en place des choses. Est-ce que vous avez des conseils?
Ne pas hésiter à en parler, que ce soit une amie ou... c'est pas une tare d'aller voir un professionnel, que ce soit un psy, un sophro ou autre chose, en parler. Tout simplement, et puis venir déposer au moins ce que tu as à déposer.
Ouais.
Ou un médecin aussi, qui est carrément apte aussi à recevoir ce genre de choses. Et aller vers une personne en qui on peut avoir confiance.
Si tu te demandes si tu es en burn-out, passe tout de suite au step suivant. On n'en parle plus. Passe tout de suite au step suivant et vois qui peut t'aider le mieux selon tes besoins. Appelle Sarah.
Et si t'es pas
appelle Sarah, elle va t'aider.
C'est pas grave, appelle quelqu'un qui te parle plus. Ouais.
Si tu te poses la question, voilà.
C'est difficile parce que... Moi, ce que je fais, c'est vraiment d'essayer de toujours être régulière dans mes émotions. Vraiment, j'essaye de jamais péter un câble dans « waouh » ou en « down », quoi. Vraiment, j'essaye Ça dépend, hein. Donc, on va vous dire à la merde. Mais j'essaye, voilà, dans mes émotions personnelles à moi, de ce qui me dérange, de ce qui vient à moi, oh bah tiens, allez, prends-toi ça, de toujours être, attends, on va relativiser, voilà, prendre du recul. Et puis en fait, ça passe. Parce que moi, j'ai un tempérament un peu comme ça de feu, et de me dire, non mais attends, est-ce que ça t'était destiné? Est-ce que t'es obligée de le prendre comme ça? Est-ce que...
Une émotion, si elle est la moins de 2 heures, c'est par exemple que quelqu'un va te dire quelque chose, tu vas être en colère 2 heures ou 1 heure et demie, et ça va te passer après, c'est que ça venait pas de toi. Si une émotion reste plus de 2 heures, et d'accord, que 15 jours après encore, t'es comme, oui, mais ça...
D'accord. C'est que c'est toi, profondément.
Ouais. D'accord, ok.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc toi, tu prends du recul, mais imaginons l'émotion, elle dure donc voilà 2 semaines et elle est toujours dans ta tête et tu cogites et tout. Qu'est-ce que tu conseilles ?
Moi, je dirais qu'il y a, en tout cas, on parle de acceptation, conquête, transformation. J'accepte le fait que cette situation me dérange. Conquête, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce que je ressens ? Comment je peux l'éviter ? Comment je peux le transformer ? Et après, tu viens travailler dans la transformation.
Et donc, du coup, tu fais des exercices clairs, concrets, quoi. Tu mets des gestes, des respirations.
Ouais. En souffrant, on travaille sur la respire. Donc, ça va aider, par exemple, pour la gestion du stress. On va beaucoup travailler sur la respiration abdominale. Parce que c'est ce qui va permettre de réguler ce pic de stress, quoi, finalement. Si tu es un petit peu stressé, tu prends une grande inspiration, tu gonfles ton ventre, et puis... La cohérence cardiaque, c'est la même chose, quoi. Souvent, voilà. Sur des mouvements doux, donc, qui sont inspirés beaucoup du yoga, et des visualisations positives.
On a paumé, on a perdu un
Moi, je me disais, on va faire un exercice. Je vais essayer. Pendant qu'elle parlait, j'ai essayé, je gonflais mon ventre.
Mais moi aussi, tu sais, mais...
Je comme ça.
Mais c'est marrant quand tu dis on va essayer, parce qu'on va faire un exercice là en live pour nous, mais forcément en replay pour vous. Mais juste avant, j'avais une question. Est-ce que vous avez fait une sorte de tri dans votre entourage? Est-ce que genre il y a des personnes, vous avez remarqué qu'elles étaient très toxiques, et vous vous êtes dit toi plus jamais, et vous avez repéré des personnes qui étaient plus nourrissantes pour vous, et vous avez dit ah toi je vais peut-être parler plus souvent.
À part le boulot, dégage.
Bien sûr que t'as trié.
Non, mais c'est pas une personne, tu vois. C'est pas une personne, c'est une activité.
C'est tout l'environnement. Tu peux trier tout un environnement que t'as senti hostile pour toi, et tu t'es dit, basta, j'y vais plus.
C'est ça. C'est ce que. Voilà. Alors dans ce cas, oui, effectivement, ça m'allait plus. J'ai coupé les ponts avec mon ancien job. Mais non, dans les relations, il n'y avait pas de gens toxiques autour de moi.
Mais toi.
Moi, j'ai fait en sorte que les relations qui étaient toxiques, mais qui comptaient pour moi...
Avec modération.
Non, justement, on les a soignées ensemble avec ces personnes-là. Okay. Si tu veux qu'on continue, il va falloir changer des choses.
Okay.
Parce que je t'aime, parce que voilà, et il va falloir qu'on change des choses.
C'est excellent.
C'est pas facile, parce que des fois, ça ressort et voilà. Mais sinon, oui, je me suis rapprochée aussi, voilà, plus de gens bienveillants, ouais. Mais vraiment profondément bienveillants.
Moi, je sais que dans toutes les périodes où j'ai eu besoin d'un changement pour moi, tout mon environnement a toujours changé. Il y a forcément eu des gens qui sont restés.
Alors, vous êtes prête pour un exercice ? Je vous dis, on se lève. Alors, toi qui nous écoutes, si t'es dans le bus, c'est peut-être compliqué.
Ouais, on peut le faire aussi assis. Hein. Ça peut être,
ou si tu fais ton footing.
Donc, elle t'a dit, tu peux le faire assis. Alors, soit debout, soit assis. Ou sinon, tu le feras quand tu pourras. C'est pas grave, l'épisode, il est dispo tout le temps.
On a fermé les yeux, si on est confort. Si on n'est pas confort, on laisse les yeux entrouverts, il n'y a pas de souci. Et on va venir respirer. Donc, on s'ancre bien au niveau de ses pieds. Pieds largeur du bassin, si on est debout. Les genoux légèrement fléchis pour être souple. On va venir s'écouter, se calmer tranquillement. On va venir poser une main sur le ventre et une main au niveau des lombaires. Juste dans un premier temps, on va observer ce qui se passe. Peut-être que Le ventre se gonfle, peut-être pas, et c'est ok. Juste observer la respiration, comment ça se passe. Puis sur trois respirations avec la tête bien droite, on va inspirer et gonfler le ventre. Sentir ses mains. Et on expire par la bouche et on dégonfle le ventre. La main au niveau du ventre peut venir exercer une petite pression. Une deuxième fois, on inspire, gonfle le ventre, prend conscience de l'espace entre nos deux mains et à l'expire, je dégonfle le ventre. Une troisième fois, j'inspire, je gonfle. Prendre conscience de cet espace entre mes mains. Et à l'expire, je dégonfle. Pour revenir, faire exactement la même chose trois fois avec la tête vers l'arrière. J'inspire, je gonfle mon ventre. Et à l'expire, je dégonfle. Conscience du trajet de l'air au niveau des narines et de la gorge. J'inspire, je gonfle. J'expire, je dégonfle. Une dernière fois. Je vais venir faire trois fois la même chose, la tête vers l'avant. Le menton sur la poitrine. J'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, l'espace entre mes deux mains se rétrécit. J'inspire, je gonfle. J'expire, je dégonfle. Prendre conscience de sa respiration abdominale. Et une dernière fois. Je dégonfle. Je peux venir remettre les mains le long du corps, la tête droite. Et juste observer comment je me sens après cette activation. Quelques secondes. Je vois ce qui se passe peut-être au niveau de mon ventre, de ma gorge, de ma respiration. Et tranquillement, je reviens ici maintenant, mettre du mouvement dans les mains, et que c'est bien fait.
Voilà, j'espère que tu pourras pratiquer cet exercice autant de fois qu'il le faudra, à savoir dès que tu sens qu'il y a un événement stressant qui arrive, dès que tu t'apprêtes, je sais pas moi, avant une réunion, avant une soirée familiale qui pourrait être hostile pour toi, le matin quand tu te lèves, avant de te concentrer, avant de faire une tâche que tu n'apprécies pas des masses. Vraiment, la cohérence cardiaque, on peut l'appliquer, on peut l'exercer tout le temps, il n'y a pas d'effet indésirable. Tu pourrais la faire 20 fois par jour, et bien fais-la 20 fois par jour. Le tout est de t'apporter cet anti-stress dont tu as besoin. Il faut juste comprendre que la respiration abdominale est un antidote du stress, parce que ça active le côté parasympathique. Pour résumer cette interview, je dirais que connaître ses limites est indispensable pour éviter le burn-out, le burn-in même, et tout événement indésirable. Suivre ses envies sans se comparer et sans faire attention à ce qui est tendance ou non, le but est de trouver ce qui te plaît toi, ce qui te fait plaisir à toi et ce qui t'aide à te détendre. Relever des défis pour ne pas s'ennuyer, changer de travail pour ne pas rester dans un boulot alimentaire et finir en burn-out. Et enfin, faire le tri dans son environnement, garder les personnes qui vont te booster, qui vont t'encourager, et t'éloigner des personnes qui sont hostiles envers toi. Donc si tu arrives à faire le travail avec elles, c'est très bien, mais si c'est trop demandé, si c'est trop compliqué et si ça aggrave la situation plus qu'autre chose, eh bien utilise le concept de modération. Pour terminer cet épisode, je te remercie plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis. Laisse-moi 5 étoiles, ça me permet d'être bien référencé dans Apple Podcast. Et surtout, parlons-en à ton entourage, à toute personne qui pourrait en tirer du bénéfice et des solutions et des astuces. Bref, parlons-en à quelqu'un qui pourrait vraiment être aidé par ce podcast. Et on se capte sur Instagram pour le live hebdomadaire. Tu pourras me poser toutes tes questions. Et pour la semaine prochaine, on parlera de l'ikigai, justement pour approfondir cette petite partie de l'interview. Et puis surtout, d'ici là, n'oublie pas de booster ton feeling good.